et des biens communs, gratuité des biens et des transports, rupture avec le productivisme, l'agro-industrie, l'extractivisme, le soutien au peuple ukrainien contre l'agression russe, soutien qui comprend l'aide militaire, l'exigence de l'action de l'Union européenne pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la libération des otages et la création d'un État palestinien, le rassemblement pour lutter contre la menace néofasciste en Europe. La division, la démoralisation ne doivent pas conduire à l'abstention. Toute voix et donc le mouvement Ensemble appelle à la mobilisation pour que le maximum de voix se porte sur l'ensemble des listes de gauche et écologistes issues de la NUPES. Une partie des camarades d'Ensemble considère qu'il convient de voter préférentiellement pour la liste conduite par Manon Aubry, d'autres pour la liste conduite par Marie Toussaint.
Ok, voilà. Donc vous appelez à voter. Merci en tout cas de ta participation. Merci Jean-Luc d'être là dans Acétone.
Et à la semaine prochaine.
Ouais, et à la semaine prochaine. Et ensuite, j'annonce qu'il y aura un reportage documentaire qui va passer à l'université de Victor Ségalen, place de la Victoire, à la salle Gentrac, vendredi 31 mai 2024, de 17h à 20h. Et c'est un documentaire sur les luttes sociales appelé et fait par notre ami Jacques de TB33. Voilà, je lui ai promis de passer l'annonce. J'espère que vous serez nombreux à aller voir ce documentaire sur les luttes sociales. Allez, à que ciao, bonsoir, à mercredi prochain. On fera peut-être mieux ou peut-être plus mal, on ne sait pas. On a le droit de se tromper et tant pis après tout. Allez.
Ne savent pas ce qu'est ce projet, donc y compris des personnes qui sont dites plutôt favorables. Et ce sondage nous fait mesurer donc la distance qui sépare le débat public ou médiatique des discussions et préoccupations de la population. Rappelons, comme le fait Pierre Urmic dans Sud-Ouest, que l'enquête publique sur ce projet de LGV avait recueilli 14 000 contributions, dont 93% donnaient un avis négatif. Dans un précédent sondage en 2018, environ 60% des sondés disaient également qu'ils n'utiliseraient jamais ou que très rarement ces lignes à grande vitesse. En parallèle de ce sondage, un avis défavorable a été rendu par les scientifiques sur les aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux qui font partie du projet de LGV. Le Conseil national de la protection de la nature et l'autorité environnementale pointent que toutes les incidences environnementales n'ont pas été prises en compte dans le dossier de la SNCF et s'opposent donc à ce que des espèces végétales et animales puissent être détruites pour la construction de ces lignes, de ces aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Toujours dans Sud-Ouest, le député écolo Nicolas Thierry demande lui un référendum pour trancher cette question, pour que chaque parti puisse exprimer de manière factuelle ses arguments. Je le cite, c'est le plus grand chantier ferroviaire européen, cela serait légitime, donc conclut Nicolas Thierry. Mauvaise nouvelle par ailleurs pour les luttes contre les méga-bassines. La Cour administrative d'appel de Bordeaux réautorise la construction et l'exploitation de méga-bassines en Charente-Maritime. La décision avait été inverse en première instance. Il s'agit de 21 méga-bassines pour 5 millions de mètres cubes d'eau stockée dans une région essentiellement céréalière. À ce sujet, une nouvelle mobilisation contre les méga-bassines aura lieu dans le Marais Poitevin du 16 au 21 juillet prochain, avec des manifestations le vendredi 19 et le samedi 20. Un appel a été lancé pour constituer des convois vélos pour rejoindre l'événement. Et à Bordeaux, un collectif s'organise en ce sens et donne rendez-vous pour y participer ce mercredi soir. Rendez-vous à 19h au marché des Douves pour organiser donc ce convoi vélo. Et puisqu'on parle de justice environnementale et justice sociale, un mot sur les 2000 manifestants qui se sont rassemblés samedi dernier à Gennevilliers, dans le nord de Paris, contre un projet d'entrepôt logistique géant. Étaient présents des écolos, mais aussi des syndicats, CGT et Solidaires, qui dénoncent de concert les emplois précaires du secteur de la logistique et les conséquences sur la santé des riverains. Cette manifestation a été fortement réprimée avec une soixantaine d'interpellations violentes, puisqu'il y a des images qui montrent notamment un policier visé à un manifestant à bout portant avec un flashball. Enfin, rappelons ce début d'après-midi, un rassemblement du mouvement Éducation avec Gaza en soutien au monde de l'éducation et de la culture qui sont sous les bombes actuellement en Palestine. Le rendez-vous, c'est à 14h sur la place Stalingrad à Bordeaux. Un petit tour maintenant des événements culturels de cette semaine dans le nord de Bordeaux. Bonjour Jennifer.
Bonjour aux auditeurs de la Clé des Ondes. Le Coïti Bordeaux Nord vous informe de l'actualité culturelle de cette semaine sur les quartiers nord de Bordeaux. Venez profiter d'une exposition photographique au Hall des Chartrons, de regard et de cœur, à voir jusqu'au 5 juillet, de 11h à 19h30. Toute cette semaine, le Globe Théâtre reçoit la compagnie Silex pour un spectacle jeune public à partir de 3 ans, Grrr. Il reste des places pour le mardi 28 et le jeudi 30 mai à 10h et 14h30 et le samedi 1er juin à 11h. Bénéficiez d'un tarif réduit avec le Coïti Bordeaux Nord. L'association Le Petit Parc propose un événement autour de la coopération entre Bordeaux et Lima. Carnet de voyage de Lima, exposition photo, atelier de cuisine et conférences ce mercredi 29 mai de 15h à 22h. Les Vivres de l'Art vous invitent à participer à la troisième édition des Livres de l'Art ce mercredi 29 mai de 18h à 22h. Venez rencontrer Sophie Poirier, l'autrice qui présentera son dernier ouvrage, La femme domino, publié aux éditions Actes Sud. La soirée sera également l'occasion de rendre hommage à Bernard Pivot avec sa célèbre dictée. La compagnie Jusqu'à l'Aube s'invite au théâtre Le Cerisier pour son nouveau spectacle de théâtre, Eva Perron, à voir du 29 mai au 1er juin à 20h. Bénéficiez également d'un tarif réduit avec le Coïti Bordeaux Nord. Le Centre social du Grand Parc invite les artistes à partager un moment convivial autour d'une boisson chaude pour rencontrer d'autres artistes et partager et discuter. Rendez-vous ce jeudi 30 mai à partir de 16h30. L'association Les Petits Tréteaux organise tous les jeudis soirs de 18h30 à 20h30 des ateliers de théâtre gratuits ouverts à toutes et tous. Rendez-vous jeudi 30 mai au Centre social du Grand Parc. Le théâtre du Pont Tournant vous invite à découvrir ou redécouvrir le classique de Molière, Le Malade Imaginaire, ce jeudi 30 et vendredi 31 mai à 20h30. Bénéficiez d'un tarif réduit avec le Coïti Bordeaux Nord. La Maison Bourbon, avec l'agence Sens Commun, participe à la troisième édition de la Foire internationale d'art et de design de Bordeaux. Plongez dans les œuvres picturales de l'artiste Boram Choua, à voir du vendredi 31 mai au 15 juin, du mercredi au samedi, de 14h à 18h. Vernissage de l'exposition ce jeudi 30 mai à 18h30. La Bibliothèque du Grand Parc propose aux plus de 10 ans un atelier de création musicale avec l'outil numérique Jouet-Play, ce vendredi 31 mai à 16h30. Les habitants de Bacalan et de Bordeaux sont conviés à la fête des voisins de la cité La Lumineuse ce vendredi 31 mai de 17h à 23h. Au programme, concours de pétanque, contes, jeux de société, visite guidée du lieu, concerts, scène ouverte, DJ set et auberge espagnole. Le Garage Moderne vous accueille pour le quatrième rendez-vous des Entractes solidaires, un événement qui mêle culture et solidarité, ce vendredi 31 mai de 19h à 23h, au programme Rire, Magie et Musique. Le Comité d'habitants Grand Parc en Mouvement vous convie à son repas partagé annuel avec soirée dansante. Rendez-vous sur la place de l'Europe, vendredi 31 mai à partir de 18h30. La Maison du Jardinier organise une visite guidée du parc Rivière, samedi 1er juin de 10h à midi. L'Alternative Urbaine vous propose une balade sur le quartier du Grand Parc, un quartier aux mille et une facettes. Rendez-vous samedi 1er juin de 10h45 à 12h15. Les élèves de l'école de danse de Madrasa Alfan vous invitent à un spectacle autour de l'Égypte d'hier et d'aujourd'hui. Shira Alfan, la rue de l'art, sera visible samedi 1er juin à 20h30. Bénéficiez d'un tarif réduit avec le collectif Bordeaux Nord. Il s'agit d'un spectacle qui se déroulera au théâtre du Pont Tournant. Et pour finir, la salle des fêtes du Grand Parc accueille le concert des artistes Bikini Kill et Gomet Gain ce dimanche 2 juin. Ouverture des portes à partir de 19h. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt sur bordeauxnord.org.
C'est tout et c'est beaucoup, beaucoup d'événements cette fin de semaine dans les quartiers de Bordeaux Nord. Merci beaucoup Jennifer. 12h18 sur la Clé des Ondes, vous écoutez le plat de résistance et on s'intéresse à la rétention et au centre de rétention administrative à Bordeaux et en France. Ce samedi, ce sera la journée internationale contre les CRA. Et à Bordeaux, eh bien, une mobilisation aura lieu samedi matin. Le rendez-vous, c'est à partir de 10h30 sur le parvis de l'hôtel de ville de Senon. On va reparler de cette mobilisation et de pourquoi cet endroit avec nos deux invités. Bonjour Émilie Charlotte.
Bonjour.
Tu es intervenante juridique en rétention pour la CIMAD au CRA de Bordeaux et membre du collectif Anti-CRA et l'une des animatrices de l'émission À travers les murs chaque mercredi matin sur La Clé des ondes. Et Jean-Christophe, bonjour.
Salut.
Du collectif pour l'égalité des droits sur la rive droite et du collectif Anti-CRA également. Alors peut-être pour bien repartir de la base et savoir de quoi on parle, Émilie Charlotte, c'est quoi la rétention ?
Alors, la rétention administrative, ça englobe plusieurs choses. On entend parfois parler des CRA, centres de rétention administrative, ou des LRA, locaux de rétention administrative. Et la rétention administrative, en fait, c'est une forme d'enfermement des personnes étrangères qui sont en situation irrégulière et que la France soit expulsée. Donc, très concrètement, la préfecture, le plus souvent, donc la préfecture va prendre ce qu'on appelle une mesure d'expulsion, les plus connues étant les obligations de quitter le territoire français, les OQTF. Et ces personnes-là, donc étrangères qui sont en situation irrégulière, se retrouvent enfermées dans ces lieux d'enfermement qui ressemblent en tout point à des prisons, afin que la France puisse tenter de les expulser vers leur pays d'origine.
Il y en a surtout dans les grandes villes, c'est ça, plusieurs par région. Alors pour ce qui est de chez nous à Bordeaux, il y a un CRA qui est situé dans le sous-sol de l'hôtel de police. Il y en a également, je crois, dans la région à Hendaye, c'est ça ?
Alors exactement, en France, à ce jour, il y a 25 centres de rétention administrative, donc CRA, soit un total de 1948 places. Il y en a en effet donc, dans notre région à Bordeaux, donc sous le commissariat de police de Mériadec, également proche de nous à Hendaye et à Toulouse, où c'est également la CIMAD qui intervient dans ces locaux-là pour apporter une assistance juridique aux personnes qui sont enfermées.
Et au total, en 2023, il y a eu près de 47 000 personnes enfermées, c'est ça ? Ce chiffre, c'est des personnes enfermées qui sont pour une partie d'entre elles expulsées. Ensuite, parfois, il y a des recours et ça vous permet en tout cas d'arriver à gagner le fait qu'elles ne soient pas expulsées, c'est ça, Émilie Charlotte ?
C'est ça, donc un peu moins de 47 000 personnes pour l'année 2023. Malheureusement, on constate que la durée de la rétention, elle augmente, donc à savoir que les personnes peuvent être enfermées pour un maximum légal de 3 mois. Donc cette durée de rétention augmente sans pour autant que l'expulsion augmente. Donc les personnes se retrouvent enfermées davantage de temps pour rien.
C'est quoi un peu les motifs pour lesquels ces personnes-là elles sont arrêtées ? Comment on se retrouve en CRA et comment on se retrouve à être expulsé, comment l'État, comment la police pratique ces arrestations, cette rétention et ces expulsions ?
Alors on a vraiment des situations tout à fait variées. Donc en l'occurrence à Bordeaux, c'est un CRA de 20 places hommes, donc nous on ne voit que des hommes enfermés et il y a vraiment tous les profils, des personnes qui sont en France depuis 10-20 ans, qui n'ont pas vu leur titre de séjour être renouvelé parce que les démarches sont très contraignantes et le fait est qu'ils n'ont pas eu de titre de séjour et ils se retrouvent à être interpellés dans la rue, contrôle d'identité par exemple. Ça peut être aussi un placement en garde à vue suite à un état d'ébriété ou parce que la personne a été arrêtée pour vol. On a vraiment plein de situations différentes. On a aussi des personnes qui sortent de maisons d'arrêt, donc notamment de Gradignan, qui en fait, pensant une fois qu'elles ont fini leur peine, pensent retrouver la liberté et en fait ne sont pas informées qu'elles ont eu une obligation de quitter le territoire français et se retrouvent en fait en CRA sans comprendre pourquoi.
Tu disais, la CIMAD intervient dans les CRA aujourd'hui en France pour prêter assistance et pour aussi avoir un regard, prêter assistance aux personnes qui sont enfermées et avoir aussi un moyen de savoir ce qui s'y passe. On voit en parallèle la politique de l'État qui vise à multiplier ces centres de rétention, à les industrialiser presque, à créer des CRA beaucoup plus importants qu'auparavant. On va parler du projet à Bordeaux avec un nouveau CRA qui ferait 140 places. Quel regard la CIMAD porte là-dessus et jusqu'à quand est-ce que être dans ces CRA pour la CIMAD, ça représente un intérêt et à quel moment ça devient peut-être participer, en tout cas laisser faire cette politique de l'État ? Émilie Charlotte ?
Alors nous, évidemment, la CIMAD, on est contre l'enfermement des personnes étrangères. On intervient dans les CRA depuis leur légalisation, donc depuis le début des années 80. On avait été initialement... le gouvernement était venu chercher la CIMAD afin qu'en fait, ils puissent avoir une assistance juridique dans ces centres de rétention parce qu'auparavant, personne ne pouvait s'y rendre. Donc nous, évidemment, on condamne ces lieux-là. On souhaiterait qu'ils n'existent pas. En pratique, on se retrouve à essayer d'accompagner les personnes qui sont enfermées avec des législations qui sont toujours plus restrictives. Et là, et en parallèle, on essaye aussi de pouvoir porter leurs témoignages à l'extérieur du CRA, de pouvoir communiquer sur ce qui s'y passe, parce que très peu de personnes peuvent s'y rendre et ce sont des endroits totalement fermés.
Et je crois que ça fait partie des débats quand même à l'intérieur de la CIMAD de voilà, jusqu'à quand on le fait et quand est-ce qu'on dit là c'est plus possible quand il y a des unités avec 140 personnes enfermées et qu'on voit cette politique qui est sans fin de la part de l'État. Il y a aussi une volonté de dire voilà, on est contre ces structures et donc on n'y met pas les pieds.
Oui, également, c'est toujours très compliqué d'intervenir dans ces lieux-là. La CIMAD ne souhaite pas intervenir dans les nouveaux centres de rétention et en effet se pose la question de continuer notre intervention ou pas, dans quel CRA et à quelles conditions.
Donc je le disais, à Bordeaux, tu le disais, il y a un CRA actuellement qui fait une vingtaine de places. Il y a un projet dont on entend parler depuis des années maintenant, pour lequel s'est constitué ce collectif anti-CRA. Jean-Christophe, peut-être, alors toi d'abord en tant que militant du collectif Égalité des Droits qui aide de la solidarité auprès de personnes qui en ont besoin et qui sont en situation de migration à Bordeaux, comment vous, au collectif, vous en êtes arrivé à faire partie de ce collectif et à rejoindre cette bataille-là contre les centres de rétention, Jean-Christophe ?
Oui, effectivement, depuis plus de 35 ans, là, sur la rive droite, nous recevons énormément de personnes d'origine étrangère qui essaient de régulariser leur situation avec des cas de figure très, très divers. Et on voit effectivement que de plus en plus souvent, maintenant, les décisions qui les concernent, que ce soit sur des premières demandes ou des renouvellements, sont assorties d'obligations de quitter le territoire et donc de la menace de la rétention. Alors qu'il y a d'autres possibilités, il faut quand même indiquer que la rétention n'est pas obligatoire dans le droit français, qu'il peut y avoir une assignation à domicile, par exemple, ce qui permet quand même aux personnes d'être dans une situation beaucoup plus facile lorsqu'il y a une vie de famille, lorsqu'il y a des obligations à remplir, notamment par rapport à la régularisation de leur situation. Mmh. Alors, à ce titre-là, on était parmi les fondateurs des États généraux des migrations en Gironde, et effectivement, avec notre festival interculturel Planète, là on avait incité à ce qu'il y ait une coordination un petit peu des efforts qui étaient faits par différentes associations sur la Gironde. Et on a très vite pointé donc cette difficulté de l'enfermement qui devenait quasi systématique au moindre contrôle de personnes sans papier. Et on a participé donc à ce titre au lancement de cette initiative de lutter contre le projet de centre de rétention administrative qui devait arriver tout d'abord à Pessac et qui a été transféré, le projet est sur Mérignac maintenant. Et lorsqu'il y a eu cette annonce de créer le plus grand centre de rétention de France, on a voulu manifester qu'on ne voulait pas que ça soit fait en notre nom et que, effectivement, d'autres politiques migratoires étaient possibles que de passer par l'enfermement.
C'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années qu'on parle pas mal de vous, en tout cas ici sur la Clé des Ondes.
Et on vous a remercié.
une victoire en demi-teinte, on va dire, à Pessac, puisque suite à la mobilisation aussi de riverains, le maire de Pessac avait dit non, on le fait pas ici, et donc négocié avec Alain Ziani, maire de Mérignac et président de Bordeaux Métropole, que le CRA soit déplacé sur la commune de Mérignac, ce qui a été acté. On en est où de ce projet-là de CRA sur la métropole de Bordeaux, Jean-Christophe ?
Alors, il y a eu effectivement un échange de terrain qui a été proposé à l'État, qui était propriétaire d'une parcelle le long de la rocade de la Pessac, mais dans un quartier pavillonnaire. Donc, la métropole a proposé un terrain qui est proche du crématorium et du cimetière intercommunal de Mérignac, donc dans une zone qui devait être un bioparc. Et effectivement, là, l'échange, on a appris qu'il s'était fait sous forme d'un arrêté, en considérant que les terrains avaient la même valeur, alors qu'il y avait des tailles très différentes entre celui de Pessac et celui de Mérignac. Donc ça nous a semblé quand même important de réagir aussi sur le plan juridique, parce qu'il y avait des points d'accroche pour aller en tribunal administratif. Donc là, on a lancé avec des avocats une procédure dans ce sens. Bon, on n'a pas encore de date de fixer, mais on voudrait effectivement qu'il y ait une remise en cause de cet accord entre la métropole et l'État. À ce titre, on est aussi intervenu dans les conseils municipaux de la métropole et lors du conseil métropolitain pour dénoncer cette aide qui était faite à la politique d'enfermement de l'État. Et on a ainsi obtenu des motions de défiance contre la construction de ce nouveau centre de rétention dans les communes de Senon et Lormont. Et on va continuer à solliciter les autres villes de la métropole pour faire pression effectivement sur cette politique qui facilite les projets de Darmanin d'accroître le nombre de places en rétention.
Oui, on rappelle que, il me semble, même la ville de Mérignac fait partie de l'Association nationale des villes et territoires accueillants.
Oui, tout à fait. Alors bon, on espérait que ça ne serait pas accueillant pour un centre de rétention, que c'était plutôt pour l'accueil des étrangers. Et là, malheureusement, on fait aussi pression pour qu'il y ait un respect de la charte de cette association nationale, à laquelle il y a aussi Bordeaux, le département de la Gironde, enfin, il y a d'autres villes localement qui se sont manifestés pour défendre une politique d'accueil.
En attendant, le projet, là, il a l'air lancé. Vous me disiez juste avant que les appels d'offres ont déjà été publiés et remportés par Bouygues, donc voilà. Qui commencerait à construire ce nouveau CRA à partir de la fin de cette année.
Voilà, c'est ce qui est annoncé. Alors, bon, on espère que notre action en justice va permettre de ralentir le mouvement, mais sinon, il était question d'une ouverture début 2026. Donc là, on aimerait que les travaux ne démarrent pas trop vite. Il y a aussi des contraintes environnementales que l'on pensait pouvoir mettre en exergue, parce que c'est quand même un terrain qui, au départ, devait être consacré à des activités de nature. Et là, bon, on n'est pas du tout dans cette logique-là avec la construction d'un CRA.
On parle de CRA, centre de rétention administrative, mais il y a aussi les LRA, locaux de rétention administrative, qui passent encore plus invisibles sous le tapis, c'est ça? Émilie Charlotte, tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit?
Oui, alors concernant les LRA, il faut vraiment avoir en tête que c'est un rouage essentiel dans la politique d'enfermement et d'expulsion des personnes étrangères. Donc comme les CRA, ce sont des lieux d'enfermement pour les personnes étrangères que la France veut expulser, à la différence que ces lieux-là sont des lieux d'enfermement de courte durée, donc on parle de 48 heures maximum. Ces lieux-là sont régis par l'article R744-8 du CCEDA, Code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, qui explique grossièrement que lorsqu'il y a des raisons, des circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, les étrangers qui ne peuvent pas être placés immédiatement dans un centre de rétention, eh bien le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, les fameux LRA, locaux de rétention administrative. Là où c'est compliqué, c'est qu'il existe donc des locaux de rétention administrative, des LRA permanents, donc vraiment des locaux qui sont affectés à cet usage. À ce jour, en France, on en compte 28 pour 131 places. Toutefois, là où ça devient compliqué, c'est que ces locaux peuvent être également créés sur simple arrêté préfectoral et de manière éphémère. Donc en pratique, ça va être dans des hôtels, dans des commissariats, gendarmeries, souvent proches d'aéroports.
Et là, en tout cas, dans ces endroits-là, il y a très peu de surveillance. Enfin, même vous n'y entrez pas. C'est ça, les seuls moments de mémoire où il y a pu y avoir un regard extérieur, c'est quand des députés demandent à y entrer, à faire une visite, un droit d'entrée, de visite parlementaire.
C'est ça, les députés peuvent s'y rendre en visite. Et en effet, à la différence des CRA, il n'y a pas d'accès effectif aux droits Donc pas de médecin, pas d'avocat, pas d'association qui intervienne, donc à la différence des centres de rétention. Donc il y a vraiment un manque de transparence complet. Les personnes qui se retrouvent enfermées là le sont pour être expulsées généralement le lendemain, et elles n'ont pas la possibilité d'avoir accès donc à un avocat, un médecin, à une association. À titre d'exemple, il arrive que lorsque... par miracle, les personnes enfermées arrivent à joindre un avocat, parce qu'elles n'ont pas, on leur retire le téléphone également. Donc lorsqu'elles arrivent à joindre un avocat par le biais de la famille, par exemple, et que l'avocat peut se rendre sur place, ils se retrouvent à faire un entretien dans une chambre d'hôtel, assis sur un lit en face de la personne.
Et alors, CLRA, il y en a ici, sur l'agglomération bordelaise, et notamment sur ce nom, c'est ça, de ce que vous en savez ?
Voilà, tout à fait. On a découvert, grâce à un article de Sud-Ouest, en octobre 2021, qu'il y avait un local de rétention administrative permanent de 12 places qui a été créé au sein de la base des CRS à ce nom. Donc un lieu effectivement très discret, puisque c'est un ancien terrain militaire et il n'y a pas d'accès possible pour rendre visite aux personnes retenues. Comme disait Émilie Charlotte, c'est uniquement quelques avocats qui ont pu être alertés assez vite pour pouvoir s'y rendre. Mais généralement, comme l'expulsion arrive en suivant, il y a vraiment très peu de recours possibles. Donc là, on a ce lieu très opaque qui, effectivement, a tendance à se développer, aussi bien les aléras permanents que les lieux éphémères sur simple arrêté préfectoral. Et là, ça nous semble être l'étage supérieur de la préparation de l'expulsion que l'on condamne, effectivement. Et c'est pour cela qu'on souhaitait manifester à ce nom, pour avertir la population déjà qu'il y a ce type de comportement tout près de chez eux, d'autant plus dans des quartiers où il y a une forte proportion de personnes issues de l'immigration. Et c'est vrai que là, on voudrait quand même mettre le focus de cette manière sur cette opacité, ce manque de possibilités de démocratie, d'intervention, disons, dans ces lieux-là.
Et donc c'est pour ça que vous donnez rendez-vous samedi matin, c'est à 10h30, c'est ça ?
Voilà, c'est cela.
Devant l'hôtel de ville de ce nom ?
Tout à fait, hein. On souhaite pouvoir informer la population, pouvoir discuter, même essayer d'avoir des témoignages de personnes retenues, peut-être d'avocats également qui ont eu l'occasion d'y aller, et interpeller aussi les élus de manière à ce qu'ils ne facilitent pas le travail de l'État dans cette politique de migratoire qui est désastreuse pour les vies des personnes.
Tu parlais tout à l'heure de l'activité, du travail que fait le collectif Égalité des droits au quotidien, à l'année, essayer d'accueillir ces personnes dignement, de leur permettre, bien souvent, ce qu'elles demandent, c'est pas très compliqué, c'est de pouvoir travailler, c'est d'avoir un toit, de pouvoir se nourrir, avoir des vêtements, emmener leurs enfants à l'école. On voit bien comment toutes ces politiques-là, toute cette rétention, cet enfermement, que ce soit en CRA ou en LRA, il vient briser toutes ces dynamiques-là.
Tout à fait.
Et il vient désintégrer, détruire des vies, ou briser en tout cas les vies de ces personnes.
Oui, parce que en plus, les décisions d'OQTF sont très souvent stéréotypées et on se retrouve avec des rejets de demandes qui ne tiennent pas compte véritablement, qui ne personnalisent pas l'étude. Et alors, on est obligé ensuite d'aller en justice. Et là, on est assez heureux parce qu'on a eu 3 décisions favorables à la suite. 2 au tribunal administratif de Bordeaux, et on pense qu'il n'y aura pas d'appel de la préfecture, on espère en tout cas. Et pour une autre situation, une famille kurde qui était présente depuis 16 ans en France et qui avait des enfants nés en France, très intégrés dans la commune, avec un parrainage républicain des enfants. Et là, il a fallu donc aller jusqu'au Conseil d'État pour obtenir gain de cause et effectivement que la famille puisse rester dans ces conditions. L'avis de la préfecture disant que la famille n'était pas intégrée et ayant été effectivement battue en brèche par les témoignages des voisins, des militants, des élus qui se sont mobilisés autour de la famille.
Émilie Charlotte, il y a aussi des histoires de personnes qui passent par les CRA, qui sont expulsées et parfois dans des conditions qui semblent quand même assez peu respectueuses des droits humains. Je pense à quelqu'un qui avait des soucis de santé et qui a été expulsé en pleine connaissance de cause que ça allait entraîner une rupture dans son traitement, dans son suivi médical ?
Oui, alors, donc concernant les CRA, où là je peux porter mon témoignage, les personnes, lorsqu'elles sont expulsées, donc déjà, elles ne sont pas prévenues qu'elles vont être expulsées. Donc elles se font réveiller, généralement c'est assez tôt le matin, donc elles se font réveiller le matin par le bruit des portes qui se bloquent, afin de verrouiller l'ensemble des portes pour éviter, soi-disant, les mouvements de foule et pour permettre à la police d'expulser dans de meilleures conditions les personnes. Donc elles se font réveiller très tôt le matin, 4-5 heures du matin, potentiellement emmenées de force à l'aéroport, expulsées. Et en effet, on a plusieurs situations. Donc oui, récemment, une personne qui avait une grosse pathologie psychiatrique dont l'administration avait parfaitement connaissance, qui a été expulsée. On a également eu plus récemment, et malheureusement trop souvent, des parents d'enfants français qui s'occupent de leurs enfants, mariés à une femme française. Et ça arrive de plus en plus.
Merci beaucoup Jean-Christophe du collectif pour l'égalité des droits et du collectif Anticra, et Émilie Charlotte, intervenante juridique en rétention pour la CIMA.